L'intervention de Madame Taboulé, le temps que Michel dépanne ceci.
Avec le micro.
Est-ce que quelqu'un souhaite faire un commentaire, intervention? Madame Taboulé, vous prenez note et ensuite vous donnerez une réponse de l'écran.
Si moi je voulais.
Monsieur Siari, sinon il va m'accuser de.
D'approcher le micro, s'il
vous plaît. Ça marche. Oui. Justement. On a vu au cours de la maladie de Lyme un phénomène nouveau qui est apparu, c'est le rôle des associations de patients qui ont prétendu dicter ce qu'était la médecine et qui ont porté plainte contre la Société française de la société de pathologie infectieuse de langue française, contre l'Académie de médecine, contre le Collège national des généralistes enseignants. C'est-à-dire qu'il y a quand même un phénomène nouveau qui est intervenu, où ce sont des associations de patients qui dictent ce que doit être la médecine, qui dictent la science. Ça, je n'avais jamais vu ça avant, avec toujours derrière un gourou, hein, pour ne pas le nommer le professeur Perron. Voilà. Et donc là, effectivement, je pense qu'on a franchi une nouvelle étape dans la surmédicalisation, voire l'extra-médicalisation, avec ce problème.
Je veux dire qu'avant, il y avait les médecins, c'était insupportable. Toujours l'industrie, maintenant, il y a les associations de parents. Les associations de malades.
Certaines,
pas toutes. Merci beaucoup, Madame, c'est passionnant. Moi, je voulais signaler, à propos de ça, d'ailleurs, des associations, si un problème un petit peu philosophique, en gros. C'est qu'en principe, quand on a la responsabilité de quelque chose, on a l'autorité qui va avec. Or, maintenant, dans la relation nouvelle avec le médecin a toujours à peu près 100% de sa responsabilité quand même. Donc, ça ne me paraît pas tout à fait logique, d'une certaine façon, de ne pas davantage partager notre responsabilité avec les patients, parce qu'ils sont partie prenante, en tout temps trop tard. Évidemment, vous avez parlé de cette loi de 99 à CMU qui a ouvert les horizons en disant qu'au départ, il y avait un enjeu des médecins par rapport aux poursuites judiciaires. Or, il me semble que les poursuites judiciaires ne fait que s'accroître à ce moment-là. Donc, en tout cas, c'était manifestement un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a pas réussi. Et je pensais aussi, d'un point de vue juridique, puisque vous connaissez bien le problème, il y a une seconde date, moi, qui me paraît importante, c'est l'arrêt Perruche. On s'est mis à marcher sur la tête quand même, puisque finalement, il me semble, hein, je n'ai pas bien suivi, ce n'est pas ma spécialité, mais que les échographistes obstétricaux ont décidé de faire moins de dépistage, puisque ça pouvait leur retomber sur le nez ultérieurement avec les notifications d'assurance cardiaque, etc. Donc, in fine, le courant, c'est qu'on va moins dépister, puisqu'il y a des risques à plus dépister, puisqu'il y a eu donc une poursuite pour préjudice de vie d'un enfant, ce qui est assez agressant. Même je pense que les législateurs ont revenu à l'envers, mais le mal est fait, les obstétriciens ont des sommes colossales à payer pour leur assurance, donc comme quoi,
oui, depuis la
Et enfin, un petit bon, je voulais savoir ce que vous pensiez de cet arrêt. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu changé notre pratique aussi en voulant délimiter de plus en plus le territoire de responsabilité? C'est dommage, en tout cas en tant que chirurgien, je me dis. Et puis, autre chose très très intéressante, quand vous avez parlé de l'optimisation de la ressource médicale, est-ce qu'on allait s'intéresser aux plus malades ou aux moins malades, dans la mesure où il y a aussi quelque chose dans la pérennisation de la santé publique ou quelque chose comme ça? Juste une petite expérience personnelle, j'avais fait une formation à l'IU sur les bébés. On avait assez de chambres de carcinier dans le cadre de l'unité comme animateur. Et donc, c'était assez curieux de voir comment, quand le terrain change, la nécessité change, et qu'en fait, chez les brûlés de guerre, celui qu'il faut soigner, c'est moins atteint. Parce que sur le territoire, il faut faire un tri qui devient différent. Il faut choisir le moins atteint. Et donc, je pense que ça pose un problème de finalité et d'éthique chez nous qui est extrêmement important.
Merci pour cette présentation. En très riche et très bien documentée. Mais l'impression que j'avais, après avoir vu et entendu toute cette présentation, est une sorte de nostalgie que et on sort de l'extasie. Comme si on regrettait un passé qui était, je ne sais pas, brillant. Ce que j'aurais souhaité, peut-être, sans contester ou critiquer ce que j'ai présenté, c'est en réalité qu'il n'y avait pas moyen de ressortir les changements qui, eux, sont positifs et doivent rester. Ils ne le savent pas. Or, on parle quand même d'une ancienne relation totalement déséquilibrée entre, entre les professionnels de la santé et les personnes et les patients. Et qu'il y a eu une évolution qui est très positive. Et si on revient au concept même que vous avez évoqué par rapport aux définitions de la messe qui date maintenant de plus de 70 ans, et même de plus, cette extension vers le bien-être, etc., elle est évoluée parce que parfois le bien-être, souvent, hein, pas seulement parfois, gagne parfois, en tout cas, parfois plutôt, entre le bien-être et l'état physique, et vice-versa. Et que cette relation est très compliquée et très complexe. Et que les médecins, parfois, s'intéressaient beaucoup plus à l'aspect physique tel que lui, médecin, ou tel médecin, lui que soit, on l'a appris à la faculté, que ce qu'il est, tel qu'il est ressenti ou vécu par le patient. Il y a un déficit de dialogue. Et donc, je pense que cette dimension-là et cette évolution, cette exigence d'une relation plus équilibrée, d'un partenariat soignant, soigné, elle ne ressort pas de votre présentation, parce que vous avez, on a l'impression, vous avez mis beaucoup plus l'accent sur les, tout ce qui n'est pas thérapeutique, qu'on questionne le de tout ce qui n'est pas thérapeutique, et qu'elle pense notre enjeu par rapport à ce qu'il y a à juste titre. Et ceci a occulté les autres dimensions, je pense, qui sont positives, qui sont en prendre. On parle de soins santé sur la personne, et je pense que les soins santé sur la personne ne sont pas les soins des années 50, des années 40, des années 60. Donc, il y a du positif. Donc, le patient a des droits maintenant, et certains droits sont positifs. Et que le médecin se doit de faire un effort pour être dans cette relation équilibrée. Je pense que c'est ça qui ne ressort pas, qui donne une impression vraiment un peu nostalgique. Mais je prends acte, et je pense que c'est important, il y a des risques, il y a des enjeux importants, avec cette tendance à la consommation, cette tendance à un des domaines non thérapeutiques de la médecine. Et je pense que l'une des meilleures réponses, c'est le groupe qui essaie de contribuer, c'est en effet une critique sérieuse à la surmédicalisation.
Il y a toujours des effets indésirables. Mais c'est la même chose.
Merci. Alors, au niveau du rôle du médecin dans l'extra-médical, moi je me pose une question en tant que médecin généraliste. Depuis une dizaine d'années, il y a quand même, je vais dire, il y a une mode avec l'apparition de ce qu'on appelle au sein des entreprises du burn-out, consacré peut-être à l'évolution économique de nos entreprises, etc., qui font que régulièrement nous avons des médecins généraux, des salariés qui se sentent mal au travail, pour des problèmes relationnels avec leurs employeurs, et qui viennent chercher des arrêts de travail. Alors, est-ce que, en mon âme et conscience, j'ai le droit de faire un arrêt de travail, et honnêtement, je dirais que souvent je le fais, pour des patients qui n'ont pas vraiment de pathologie, ils ont peut-être des petits troubles anxieux, ils n'ont pas de fibromyalgie, ce n'est pas à ce stade-là, mais ils viennent chercher un arrêt de travail, ils se disent déprimés, stressés, et en fait, le motif de l'arrêt, c'est le mal-être au travail. Alors, ils vont mettre le nom de burn-out, c'est le terme à la mode, etc. Et quelquefois, ça passe, c'est, il est arrivé que ça passe en accident de travail, maladie professionnelle vis-à-vis de l'employeur. Alors, on parle du rôle. C'est le rôle social du médecin, on a un rôle social, ce n'est plus un rôle médical à ce niveau-là. Alors, où s'arrêtent nos compétences? On est en train de gérer le mal-être au sein d'entreprise par une réponse médicale. Parce que faire un arrêt de travail et donner des indemnités journalières à un patient, c'est un acte médical. Il m'a dit de dire à certains patients, si vous étiez dans des pays du Maghreb ou d'autres pays, vous n'auriez pas cette possibilité-là parce que vous venez chez moi pour avoir des indemnités journalières. À mon âge, je ne peux pas me permettre de dire à certains patients, certains ne comprennent pas, ils me disent, je n'ai pas de solution, je ne tiens pas le coup au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première remarque. Deuxièmement,
En ce qui concerne le problème des associations de patients qui dictent ce que doit être la médecine, en fait, oui, c'est ça, on le ressent comme ça, eux peuvent vous répondre que la médecine est financée avec leur cotisation sociale, ils ont voté, ils ont mis en place un système politique qui les soutient, finalement, il n'y a pas de raison que ce soit pas eux qui le commandent.